Chiraz de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour et bienvenue dans les terrasses de Manu, l'émission qui vous emmène au restaurant. Et comme l'été il fait beau, c'est en terrasse que ça se passe. Alors aujourd'hui, avec moi, deux invités qui n'en sont pas vraiment, puisqu'ils sont ici chez eux. D'abord, on accueille l'une des voix emblématiques de Beurre FM. C'est un très grand nom de la radio qui, durant sa longue carrière, a formé des animateurs célèbres comme Jean Sablon, Lucien Jeunesse ou Jean Noin. Philippe Robichon est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour Manu. Jean Noin, ouais, c'était une de mes grandes fiertés d'ailleurs. 36 chandelles, grande, vraiment une star de la télévision et de la radio.
Et de la, oui, de la télévision.
Je vous remercie Manu de l'avoir rappelé, c'est gentil.
Mais oui. Alors, mais oui, mais pas que, parce que depuis quelques jours, vous êtes aussi vice-champion de France de lecture rapide.
Voilà. Alors,
Philippe, c'est quoi la lecture rapide?
Voilà, j'ai connu Jean Noin et Léon Zitrone, mais j'ai le cerveau suffisamment alerte pour pouvoir arriver deuxième au championnat de France de lecture rapide.
Ouais, alors dites-nous, c'est quoi la lecture rapide?
Ça consiste à lire un livre de 420 pages en 33 minutes et de répondre à 20 questions.
Des questions qui portent sur le livre?
S'il vous plaît.
On a exactement les mêmes questions.
Oui, c'est ça. Des détails du livre. Et il faut que vous répondiez, alors en 33 minutes quand même.
Non, après, on évalue ton taux de compréhension. Donc on va dire par exemple, pourquoi le chat de Charlotte s'appelle machin?
Oui, donc il faut répondre à des questions précises.
Ah bah c'est très très précis.
Sur un livre que vous n'avez lu qu'en 33 minutes.
Voilà, pourquoi est-ce qu'elle porte une perruque à chaque audition? Qu'est-ce qu'il lui offre le jour où il la retrouve? Alors c'est quand même très très précis, si t'as pas lu, si t'as pas compris, t'es
oui.
mort.
Alors, oui,
tu peux pas inventer, c'est pas un QCM. Hein.
C'est ça, et c'est un exercice d'autant plus difficile, et vous avez gagné une jolie médaille qui est d'autant plus méritée.
Et une coupe.
Que vous n'avez jamais pratiqué, entre guillemets, la lecture rapide, sportivement parlant, et que vous concouriez un peu en touriste, on va dire, et que vous avez gagné contre des vrais pratiquants de la discipline qui s'entraînent toute l'année.
C'est tout le talent.
Et ils vous ont pas fait passer un contrôle antidopage.
C'est la chance du débutant.
Ouais, c'est, on va dire ça.
Voilà, mais c'est vrai, mais après moi, je suis un gros lecteur, je m'entraîne, donc tous les jours, je lis 1, 2, 3, parfois 4 livres par jour, donc pour moi c'était comme à l'entraînement. Non mais alors, Fabrice rigole, Fabrice, tu sais qu'il y a des jours, j'arrive à 5h du matin, je sais que j'ai 1000 pages à lire, je peux t'assurer que mon cerveau est déconditionné.
Hein. J'ai beaucoup de respect, parce que quand tu me dis déjà 1, 2, 3, 4 livres par jour, c'est à peu près le nombre de livres que j'ai lu dans toute ma scolarité, donc forcément, ça met en adéquation.
Il est modeste et adepte de la lecture rapide, c'est pour ça qu'il dit ça.
Ben oui, alors à la fin de cette émission, vous saurez tout apparemment sur Fabrice, parce que vous l'avez compris, c'est aussi l'un des invités qui n'en est pas vraiment un des terrasses de Manu, puisqu'il vient de finir la matinale. Alors, Philippe, déjà pour finir, je vous ai emmené dîner cette semaine. Alors, où est-ce que nous sommes allés?
Dîner. Oh, bon. Nous sommes allés dîner dans le 10e arrondissement. Quai de Valmy. Alors c'est dans la partie moins touristique du
oui, c'est vers le haut du Quai Valmy.
Voilà, du Quai de Valmy, parce qu'il y a toute la partie autour de l'Hôtel du Nord aujourd'hui.
La partie bobo hipster, ouais.
Voilà, qui est envahie par des gens. Enfin, il y a des centaines de gens. Le week-end, c'est piéton d'ailleurs.
Hein.
Enfin,
il y a des gens qui laissent les rives du canal Saint-Martin.
Et qui jettent
très sales,
des rives
ouais.
dans le canal Saint-Martin. Donc là, c'est un petit peu plus haut. On n'est pas loin de Stalingrad. Voilà.
D'accord. Bon, voilà. Bah, vous nous direz ça dans un instant. Et donc avec nous, vous avez reconnu sa voix également, donc Fabrice qui co-anime les matinales. Alors Fabrice, nous sommes Fabrice, on ne le présente plus non plus. Hein. Donc Fabrice, nous sommes allés
sur RTL.
Nous sommes allés dans un petit Saint-Malo ensemble.
Un petit peu, oui, effectivement, ouais. un cadre un petit peu particulier, un lieu. On pourrait qualifier ça de multifacette. On pourra vous détailler ça tout à l'heure. En tout cas, un restaurant qui s'appelle Le Grand Bleu, c'est sur Paris. Alors, pas forcément un lieu dans lequel vous allez aller pour une cuisine particulièrement originale ou qui sort de l'ordinaire, mais par contre pour un cadre qui est juste absolument somptueux. Et j'aurai le plaisir de vous détailler ça tout à l'heure.
D'accord. Très bien. Et oui, alors donc, on était, pour préciser un petit peu, sur le port de l'Arsenal. Alors, de l'Arsenal, d'ailleurs, on était un peu rectiligne, hein, puisque le port de l'Arsenal, enfin le bassin de l'Arsenal, c'est un bras de Seine. Enfin, pas un bras de Seine, mais c'est un petit affluent de la Seine, hein, le canal Saint-Martin.
Il y a une écluse, il y en a même deux.
Oui, il y a deux écluses. Hein. Donc, il passe sous un tunnel et après, il ressort canal Saint-Martin, là où nous
Magnifique.
Étions.
Magnifique. Alors, si vous ne l'avez jamais fait en bateau mouche, il faut le faire. C'est génial.
Absolument. D'ailleurs, il y avait les bateaux qui étaient au départ juste devant nous, puisque bon, il y a une grande terrasse de 60 places assises juste au bord du canal. C'est très bucolique. On s'est fait notre premier coucher de soleil ensemble avec Fabrice.
Enfin, moi, on m'a dit que vous n'étiez pas qu'ensemble, mais ça, on m'a pas en parlé tout de suite à l'antenne.
Ah bon, je ne sais pas. Vous avez eu des échos bizarres.
Mais je ne peux pas vous en dire plus.
D'accord.
Mais par contre, si vous voulez parler de bucolique, on peut à Manu.
Voilà, ce qui se passe au Grand Bleu reste au Grand Bleu, Philippe.
Ah, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, c'est ça. Bah, c'est comme à Vegas.
Mais si vous voulez, on peut parler de ce port qui est magnifique. Parce que si vous n'êtes pas allé, que vous êtes parisien, vous êtes à une encablure de la colonne de Juillet, place de la Bastille, et il y a une lumière incroyable. Et c'est vraiment un endroit où on est coupé du monde. On a même pas l'impression d'être à Paris. Et vous avez des gens qui vivent à l'année sur ces bateaux. C'est vraiment
absolument
un port avec une capitainerie, une ambiance de...
Bah même
est-ce que tu veux que je parle de ton restaurant aussi ou comment ça se passe?
Mais là, on parle du port.
On parle du port de l'Arsenal. Non, mais juste, mais même quelques personnages célèbres, parce que Jean-Claude Dreyfus avait une... Jean-Claude Dreyfus, c'est le monsieur qui faisait les pubs Marie, très grand comédien.
On a dit des personnages célèbres.
Bah, Jean-Claude Dreyfus,
si
un personnage
voulez,
célèbre.
Si vous voulez, je vous en prends un. Il y a Kenzo. Kenzo, quand vous arrivez place de la Bastille, il avait son appartement, vous verrez, hein, c'est au dernier étage, et alors il y a toute une terrasse.
Ouais, sur le boulevard de la Bastille.
Sublimissime.
Kenzo Takada.
Voilà.
Exactement. Grand créateur. Gilbert Montagnier avait une péniche également. Il ne s'est pas noyé. Non, mais c'est pas une
sur le port de l'Arsenal.
Sur le port de l'Arsenal, absolument. Vous voyez, donc.
Mais faut y aller, c'est vraiment beau, c'est magnifique.
Ouais, peut-être que c'est là qu'il a écrit On va s'aimer, je sais pas, ou les Sunlight
Tropics. Ah, si vous avez des dossiers, allez-y. Hein.
Mais en tous les cas, le coucher de soleil était joli. Alors puisque vous avez envie de parler, Philippe, hein, revenons au.
Alors, je suis taquin aujourd'hui, Manu.
Revenons au restaurant où je vous ai emmené. Alors le restaurant s'appelle Jawa. Alors Jawa, ça veut dire quoi déjà, vous qui êtes un spécialiste de l'Indonésie et des langues étrangères?
Ça veut dire Java. Alors déjà, Manu, je vous remercie d'avoir pris le risque de m'emmener manger indonésien. Parce que m'emmener manger à indonésien, c'est comme emmener Kim à Flunch manger un couscous. Donc c'est dangereux, vous voyez. Je vais être critique.
Ah mais non, mais on est là pour ça. On est là pour ça. Et puis de toute façon, sur tous les restaurants, il y a toujours des points positifs, des points négatifs.
C'est
et
vrai.
Dans les terrasses de Manu, on vous dit exactement ce qu'il en est. Alors, donc Jawa qui est sur le canal Saint-Martin, donc vers le haut, hein, au niveau de la rue Louis Blanc d'ailleurs, hein, pour le situer exactement.
Juste à côté du commissariat, si
ouais.
Vous voulez. Voilà.
Ouais, ouais. Alors Jawa c'est pas un restaurant, c'est devenu une petite chaîne de restaurants parce que maintenant il y en a quand même quelques-uns quoi à
ouais.
Paris. Hein, c'est vrai que c'est un petit groupe qui s'est développé très rapidement et le Jawa du Quai Valmy c'est le petit dernier. Alors déjà parlez-nous un petit peu des abords du restaurant, qu'est-ce que vous avez pensé de...
Alors d'abord je voudrais dire une chose Manu, c'est que je suis très locavore. Donc c'est-à-dire que je mange la cuisine dans l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire que je mange indonésien en Indonésie, je mange français à Paris, donc je vais rarement manger indonésien à Paris, et quand on me demande des adresses de restaurants indonésiens, j'en connais une, parce que j'ai testé les autres et je suis toujours très déçu. Donc c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai testé cette nouvelle adresse, parce que je me dis tiens, enfin un nouveau restaurant indonésien à Paris, et ça a peut-être l'occasion pour moi d'avoir une adresse à communiquer. Alors c'est d'aspect, c'est très mignon. Je veux dire que le décor est très réussi. C'est jeune, moderne, branché. Bon, vous m'avez dit qu'on...
Oui, c'est dans la tendance du quartier, quoi. C'est très,
exactement.
C'est très sympa. Il y a, ouais, c'est clair. C'est
zen, voilà.
Voilà. Bon, c'est légèrement, légèrement, très légèrement couleur locale, mais enfin bon, juste qu'il faut, le minimum syndical.
Moi, j'ai pas senti. Enfin, franchement, non. Si vous me parlez
mais parce que vous connaissez les campagnes ouais, non, les plus reculées d'Indonésie.
Non, j'ai pas senti. Si vous voulez, quand je suis rentré là-bas, j'ai pas senti que j'étais en Indonésie. Il y a rien qui ne...
Vous n'étiez pas à Bornéo.
Et la seule chose qui reflète l'Indonésie, ce sont les bouteilles de bir bintang, c'est-à-dire la bière.
Ah oui, la fameuse bière bintang.
Voilà.
Bintang
qui veut dire étoile.
Étoile, parce qu'il y a une étoile rouge sur l'étiquette de la bière Bintang.
Voilà, exactement. Donc ça, vous savez, et on n'en trouve pas beaucoup à Paris. Mais après, pour le reste, c'est pas un restaurant qui mise sur les cachets. Il y a pas de décor d'indonésien.
Il y a pas de statue de Garuda dans les coins.
Non, rien du tout. Ils ont misé sur un décor au contraire minimaliste, zen, feng shui.
Fabrice, vous avez déjà mangé indonésien? C'est une cuisine qui...
Non, j'ai pas eu l'occasion véritablement. En tout cas, dans un vrai de vrai traditionnel, non, ça j'ai vraiment pas eu l'occasion. Mais c'est typiquement le genre de cuisine moi qui m'attire.
Ouais,
parce qu'en plus, c'est vrai que Philippe a eu l'occasion. C'est un petit peu son pied-à-terre un peu là-bas.
Bah, Philippe parle jamais d'Indonésie en général.
Bah, non, ouais, jamais,
c'est rare.
Jamais. C'est un petit week-end là-bas, ça lui suffit en fait. Et donc, du coup, c'est vrai que à chaque fois, il revient avec pas mal d'anecdotes et ça donne véritablement envie de découvrir la cuisine, mais pas que, même pour les prochaines vacances, d'aller découvrir là-bas, même en s'éloignant un petit peu des circuits touristiques.
très bien. Alors, Philippe.
Alors, le Jawa, c'est à l'origine, il communique sur la street food. Et c'est vrai que la cuisine indonésienne, c'est une cuisine de street food.
C'est une vraie cuisine de rue, oui.
Voilà.
Ouais.
Et vraiment, si, et on mange bien dans la rue. Et c'est une tradition, c'est une ambiance. Voilà. Donc. Eh bien, ça déjà, ça y est pas du tout. Je veux dire, on retrouve pas cette ambiance de street food du tout.
Non, on est plus dans un restaurant un peu tendance, quoi.
Voilà, c'est tendance organisée, open kitchen comme c'est la mode. Hein. Vous avez des cuisines ouvertes.
Et alors ça, c'est vraiment une grande mode du moment. C'est les restaurants avec cuisine ouverte. Hein. Tous les restaurants qui se créent à l'heure actuelle.
On voit ce qui se passe en cuisine.
Comme vous le savez, je fais pas loin de 200 restaurants par an, en général différents. Et c'est vrai que sur tous les nouveaux restaurants qui s'ouvrent, quand c'est possible, logistiquement parlant, il y a toujours une cuisine ouverte. Vous aimez ça, vous, les restaurants avec cuisine ouverte ?
Ouais.
Ouais, c'est simple. Ouais.
Franchement, quand c'est bien organisé, j'aime bien l'ambiance.
Fabrice, vous aussi.
Oui, exactement. Surtout, en plus, alors, quand on est un petit peu local et qu'on va dans une cuisine un petit peu plus exotique, c'est vrai qu'il y a pour beaucoup un certain frein sur savoir comment c'est préparé, comment c'est organisé et tout ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien parce que au contraire, je pense que là tu pourras pas me dire le contraire, mais une cuisine bien organisée, propre et tout ça, c'est déjà signe, on va dire, d'un chef cuistot qui est hyper carré, quoi.
C'est vrai qu'une cuisine ouverte, bon, si elle est dégueulasse, hein, si c'est le chantier, c'est vrai que ça donne pas trop envie de
manger. On a envie de savoir ce qui se passe en cuisine, d'où l'expression. Hein.
Et c'est vrai qu'on a envie de savoir ce qui se passe en cuisine, et puis du coup, on a envie de voir si ce sont des produits frais, parce que en gros, si on se dit que déjà la cuisine, elle est un petit peu la pièce maîtresse.
Ouais,
du
restaurant. Dans la cuisine ouverte, on voit les boîtes de conserve.
Exactement, c'est déjà
aligné derrière le chef.
Si déjà on voit pas justement l'utilisation de boîtes de conserve et tout ça, on se dit quand même on est dans quelque chose d'un petit peu plus correct, quoi.
On est bien tombé. Alors il y a une particularité, Philippe, au Jawa, c'est qu'il y a pas d'entrée, hein. On ne mange
non.
pas d'entrée.
Alors il y a une carte ramassée et réduite. On parlait Fabrice vient de parler à l'instant de la fraîcheur. Ça c'est vraiment, il y a une toute petite carte,
ouais.
Et tout est frais.
Tout est frais. Oui, voilà. C'est vrai que tout
préparé à la minute,
frais.
Donc ça sent, et là-dessus, chapeau.
Et puis la carte, elle est composée avec les grands emblématiques de la cuisine indonésienne, quoi. Il y a les
bases.
Il y a les grands basiques.
Ouais.
Hein,
Alors c'est marrant parce que moi j'ai l'habitude de voir les cartes en indonésien, et là elles sont à moitié traduites. Alors pour vous dire, je suis passé à côté d'un plat emblématique qui s'appelle opor ayam.
Oui.
Mais moi je l'appelle opor ayam, et eux ils ont appelé ça poulet au porc. Donc
oui, c'est ça. Oui, oui.
Je peux de porc, je dois dire que vous voyez, je suis pas allé tout de suite.
Oui, oui, c'est vrai que la traduction, du coup, oui, dans ce sens-là,
ça marche pas. Voilà.
Voilà. Alors parce que effectivement, donc poulet se dit ayam en indonésien, et donc effectivement le saté ayam est devenu
poulet saté.
Saté de poulet.
Saté de poulet, voilà.
Et le opor ayam est devenu poulet au porc, et c'est vrai que bon poulet,
voilà.
Poulet
donc,
au porc.
Donc je vous rassure, c'est du poulet.
Absolument. Alors, pas d'entrée, mais alors nous, comme on voulait quand même une entrée, puis il y a quand même une entrée incontournable dans la cuisine indonésienne. En fait, cette entrée, il l'avait, mais servie comme plat. Donc nous, on se l'est partagé en entrée. C'est le gado-gado, Philippe.
Oui. Alors le gado-gado, c'est quand vous êtes en première année de cuisine indonésienne et que vous arrivez en Indonésie, la première chose que vous testez,
c'est le gado-gado.
C'est le gado-gado. Donc c'est l'équivalent, on va dire, de la salade niçoise. Gado-gado, ça veut dire mélange. On pourrait le traduire par méli-mélo.
D'accord, oui. Okay.
Vous voyez ? Bon. Et le principe, c'est des légumes croquants avec une sauce, peanut sauce. Donc, c'est une sauce à base de cacahuètes. Donc, ça, c'est le principe. Et c'est un peu comme la salade niçoise. Aujourd'hui, plus personne ne connaît la recette authentique de la salade niçoise. Donc,
oui,
tout le monde y
absolument.
Met un petit peu ce qu'il veut.
Alors, je me permets de le rappeler, parce que moi, je suis un grand défenseur de la cuisine niçoise, de la salade niçoise originelle. Dans la salade niçoise, il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a pas d'œufs durs, etc. Déjà, dans la salade niçoise, il y a un grand principe, c'est qu'il n'y a que des légumes de saison et crus. Rien n'est cuit dans la salade niçoise.
Hein. Le gado-gado, c'est ça.
La seule chose qui est cuite dans la salade niçoise, c'est les anchois, mais ils sont cuits par le sel. Hein. Voilà. Mais à part ça, la salade niçoise, tout est cru. Donc le gado-gado, tout est cru également.
C'est c'est croquant.
Croquant, oui, un pickle, c'est un peu. Voilà. Lacto-fermenté, comme dirait le chef, voilà.
Ouais, donc voilà, donc c'est croquant avec cette sauce. Hier, j'ai pas retrouvé énormément d'ingrédients du gado-gado, mais encore une fois, on y met un peu ce qu'on veut, puisque c'est un mélange.
Oui, c'est une salade. En fait, c'est une salade plutôt ménagère, quoi. C'est une entrée classique, une salade classique qu'on mange dans les familles traditionnellement. On met un peu ce qu'on a sous la main.
Il n'y a pas vraiment le principe d'entrée en Indonésie. En fait, c'est un plat. Ouais, c'est complet. Donc là, ils le servent sous forme de plat, pareil.
Oui, avec du riz, donc. Voilà. Non, il n'y avait pas de riz, pardon.
Il n'y a pas de riz.
Non, c'était avec des vermicelles de soja, pardon.
Voilà, c'est très copieux. Le goût, c'est parfait.
Oui, c'est vrai que c'était bien assaisonné.
Je me suis régalé. Maintenant, vous dire que c'est le gado-gado que je connais.
Authentique, oui, officiel.
Non, c'est ça, non. Mais par contre, ce que j'ai mangé m'a plu, c'est bon.
Et puis, comme je l'ai mangé aussi, je confirme qu'effectivement, c'était bon.
C'est bon, c'est frais.
Donc, on n'est pas dans l'authenticité, c'est-à-dire, on n'est pas au fin fond de Sumatra. Mais c'est bon, c'est bien fait, quoi.
C'est bon et c'est bien fait. Et encore une fois, et c'est important, c'est si vous y allez pour rechercher la vraie cuisine indonésienne authentique et que vous êtes un habitué de l'Indonésie, peut-être n'y allez pas pour ça, parce que vous n'allez pas retrouver ce que vous connaissez parfaitement.
D'accord, ça peut être une initiation éventuellement.
Voilà, vous allez trouver une interprétation des produits de base, mais c'est pas comme vous connaissez.
Ça marche. Eh bien, on termine sur le gado-gado juste après une pause avec Philippe Robuchon et avec Fabrice qui est également dans les terrasses de Manu ce matin.
Les terrasses de Manu revient dans un instant. Les terrasses de Manu sur Beurre FM.
De retour dans les terrasses de Manu avec nos invités du jour, Fabrice de la matinale et Philippe Robuchon, mon alter ego. Alors, nous étions en plein gado-gado, Philippe.
Voilà, on est allé dîner hier soir au restaurant Jawa, qui est la nouvelle adresse d'une chaîne de restaurants qui s'appelle Jawa, qui sont orientés street food sur la cuisine indonésienne. Ouais. Donc, on est allé hier. Je disais tout à l'heure que c'est un peu le Canada Dry de la cuisine indonésienne. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez retrouver beaucoup d'ingrédients qui sont les bases de la cuisine indonésienne, mais ne vous attendez pas quand vous allez dans ce genre d'endroit. Si vous avez passé des vacances en Indonésie, que vous avez aimé la cuisine, à y retrouver stricto sensu ce que vous avez mangé. C'est pas exactement la même chose.
Oui, c'est-à-dire que la cuisine, elle a été un petit peu adaptée au palais européen pour ne froisser personne.
Voilà, sur des principes de plats uniques, c'est-à-dire que vous prenez un plat et ça vous suffit pour tout le repas. Voilà, ils font des grosses portions, ça c'est important.
Oui, un peu comme les poke bowls là qu'on voit un peu partout en ce moment.
C'est exactement ça.
C'est un grand plat de riz avec des légumes, avec de la viande. On a un peu tout son repas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'entrée a priori. C'est qu'on a son repas.
L'idée, c'est de prendre un plat.
C'est le principe street food justement, c'est d'avoir dans un même contenant tout son repas. Donc le gado-gado. Alors dans ce gado-gado, il y avait du tofu fumé ou attendez, il était comment?
Mariné.
Tofu mariné.
C'est délicieux.
Hein, c'était bon, ouais. Hein, pour les alternatives végétariennes.
Voilà, concession aux véganes.
Concession aux véganes, ouais. Sachant que, alors, chez Jawa, les viandes sont halal. Enfin, les viandes, a priori, c'est principalement du poulet et du bœuf.
Oui, exactement.
Hein, donc, les viandes sont halal pour les auditeurs qui mangent halal. Alors, donc, ce gado-gado, on a parlé de ce gado-gado qui, normalement, alors, est servi en plat. Alors, les tarifs, c'est à emporter 10€, le midi 12€ et le soir 14€. Mais attention, nous, on se l'est partagé en tant qu'entrée, mais il est servi comme un plat, hein, donc à ce tarif-là, vous avez un plat complet.
On a quand même mangé à deux le bol.
On a mangé. Ah ben non, mais on l'a mangé. Ben
on
évidemment,
a mangé. Voilà.
Évidemment, nous sommes des professionnels.
Oui.
Très bien. Alors, ensuite, après le gado-gado, vous avez absolument voulu goûter un plat qui est un incontournable de la cuisine indonésienne. Quand on va dans un restaurant indonésien, il faut au moins goûter ce plat-là. Alors, de quel plat s'agit-il, Philippe?
Alors, c'est le bœuf rindang, qui est peut-être le plat le plus connu au monde aujourd'hui de la cuisine indonésienne. Ça appartient à ce qu'on appelle la Padang Food, la cuisine de Padang. Donc, c'est à Sumatra. Et alors, pour expliquer aux gens, quand vous allez à un restaurant de Padang Food, vous arrivez, vous commandez pas, et vous vous asseyez, et on va vous mettre 12 petites assiettes devant vous. Et donc, vous goûtez.
Comme un tali un petit peu indien.
C'est un grand mezze, voilà,
un
c'est
mezze,
ça.
Ouais,
voilà.
Un mezze ou un tali, ouais.
Et il y a le rindang dedans. Donc c'est du bœuf braisé. Et alors là, c'est le summum, le paroxysme de la viande mijotée.
Ah oui, parce que alors c'est donc là il est au Jawa, il est mijoté pendant 3 heures avec du lait de coco, 12 épices, etc. Mais alors en Indonésie, c'est un plat qui mijote 24 heures, voire 48 heures, voire 72 heures. En fait, c'est le plat hebdo qu'on fait et qu'on laisse tant qu'il y en a, on laisse la marmite sur le coin du feu, ça mijote en permanence et il y a toujours une bonne odeur de rendang dans une famille indonésienne, dans la cuisine d'une famille indonésienne qui se respecte. Alors, vous disiez que c'était le plat le plus connu de la cuisine indonésienne, l'incontournable, mais je rappelle aussi que le bœuf rendang, c'est aussi le plat qui a été élu plusieurs années de suite, cette année encore, meilleure recette au monde par les lecteurs de CNN Travel, qui est une publication très, très sérieuse et sur laquelle s'exprime, il y a un grand forum aussi sur lequel s'exprime beaucoup de grands voyageurs et de gens qui voyagent loin et souvent. Et donc, plusieurs années de suite, le rendang est arrivé plat le plus célèbre. Alors, je fais souvent le parallèle, moi, entre le rendang et plusieurs plats de la cuisine musulmane, entre guillemets, puisque cette viande qui est mijotée pendant des heures dans des épices, du lait de coco, etc., on retrouve des plats qui ressemblent dans la cuisine marocaine. Par exemple, il y a la mourousia. La mourousia, qui est un de l'agneau au ras el hanout avec plus d'une vingtaine d'épices qui mijote très très longuement aussi, qui mijotait 8 heures, 10 heures, 12 heures, dans une sauce un peu capiteuse. Et puis en Thaïlande, les communautés, il y a une petite communauté musulmane en Thaïlande qui mange du massaman. Le massaman d'agneau, c'est un plat qui se mange soit à base d'agneau ou parfois à base de bœuf et qui ressemble effectivement à ce genre de plat de bœuf mijoté très 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 longuement et qui sont emblématiques des cuisines de ces pays-là. Alors le bœuf rendang, Philippe. Alors je parlais de CNN Travel, mais nous avons mangé aussi, on en parlera après, le saté ayam, donc saté de poulet. Donc saté, c'est la sauce cacahuète. Et ce plat n'est pas, lui, premier, puisque c'est le rendang, mais dans le classement de CNN Travel, il est toujours deuxième, troisième ou quatrième. Donc, la cuisine indonésienne, qui est quand même une cuisine très, très appréciée par les grands voyageurs, Philippe.
Alors là, le rendang, c'est de la Masakan Padang, c'est d'ailleurs la cuisine de Padang de Sumatra. Donc, Padang, c'est une ville, mais de toute cette région. Bah là encore, j'ai envie de vous dire, c'était bon, ce que j'ai mangé était bon, c'était épicé, mais c'était très loin du rendang que je connaissais. Donc voilà, c'est bon, voilà. Mais
oui, il y avait du goût, il y avait le goût indonésien, il y avait le goût indonésien, il y avait le goût des épices indonésiennes.
La viande était tendre, voilà, mais pour moi, c'était pas du rendang.
Oui, d'ailleurs, c'est fait avec de l'aiguillette de rump steak, d'où la tendreté de la viande.
Voilà, c'était très tendre, mais en fait, le rendang, c'est une viande qui est presque bouillie, j'ai envie de vous dire.
Elle est compotée, elle doit se déliter un petit peu. Là, effectivement, peut-être pour des raisons de présentation,
on avait des morceaux,
et du fait que c'est de l'aiguillette de rump steak aussi, qui est un morceau plus noble, donc qui tient bien à la cuisson. Effectivement, c'était.
La viande n'avait pas imbibé, vous voyez. C'est le rindang, il y a tout qui fond. Vous voyez,
comme un bonbon.
Exactement.
Comme un bonbon.
Bon, donc bon, mais pas rindang.
Alors bon, mais pas rendang. Proposé aussi en version végétarienne, le rendang au Jawa.
Je vois pas.
Alors, il est proposé en version végétarienne, il est proposé avec du tempeh. Mais la question, c'est est-ce qu'ils font mijoter le tempeh dans la sauce comme ça se fait avec le bœuf? Ça, on n'a pas eu l'occasion de le goûter. Un plat un petit peu relevé, un petit peu épicé, pour ceux qui aiment ça.
Il vous propose deux versions. Il y a une version épicée, une version moins épicée.
Voilà, on peut choisir. choisir, on peut choisir éventuellement sa version. Donc un plat, alors là les plats sont à prix unique, donc pareil, à emporter 10 €, 12 € le midi, 14 € le soir. Alors idem donc pour le saté de poulet, donc saté ayam en indonésien dans le texte.
Saté, c'est comme tagine, ça veut dire à la fois ce que c'est et la façon de le faire. Donc saté, c'est brochette, et saté, c'est la sauce.
C'est la sauce, donc cacahuète.
C'est une sauce cacahuète, voilà. C'est une institution de la street food indonésienne. Il y a une vidéo qu'on mettra sur le blog.
Oui, on va la mettra en ligne sur.
Pour que vous voyez ce que c'est, cette tradition de la brochette. Vous les trouvez partout, sur les routes. Là, il faut aller vraiment s'arrêter pour manger des brochettes.
Oui, sur les marchés, dans les petites rues.
C'est des toutes petites brochettes. Alors, il y a des versions bambou. Enfin, il y a des versions.
Oui. Alors, je précise que le saté ayam en Indonésie, on le fait toujours avec la cuisse de poulet et non pas avec le filet de poulet, parce que la cuisse de poulet est beaucoup, beaucoup plus tendre. Je pense que là, nous, hier, nous avions du filet de poulet, qui est considéré comme plus fin et plus prestigieux dans la cuisine française, mais c'est vrai que souvent les bas morceaux sont plus goûteux mais moins prestigieux entre guillemets. En Thaïlande, on est vraiment sur de la cuisse de poulet désossée dont on a enlevé la peau, et c'est ce qui permet d'avoir des brochettes très tendres.
Voilà, et le secret, c'est la cuisson. Donc elles sont marinées, elles cuisent très près du charbon, hein. C'est des petits, alors je sais pas comment on appelle ça, des tout petits barbecues là,
ouais,
on pose directement la brochette et
deux barres métalliques avec des braises en dessous.
Voilà.
On trouve le même style effectivement dans les restaurants à brochettes japonais, les teriyaki, et puis également dans d'autres pays, par exemple au Moyen-Orient, dans les cuisines du Levant, on a ce même type de barbecue, Philippe. Alors ce saté de poulet,
alors,
saté ayam.
Déjà c'était pas des brochettes, donc c'était encore une fois le principe du bol qui revient avec des morceaux de poulet sauce.
Filet de poulet émincé.
Voilà, avec la sauce saté. Donc là aussi, la viande très tendre. Pour moi, c'était peut-être pas assez juteux au niveau de, parce que ça doit être très, le saté, c'est quand
même,
le secret, c'est que ce soit à la fois très juteux et bien saisi. Ouais, donc c'est tout est là dans la cuisson. La sauce y est, franchement, il y a le goût. Mais
ouais, la sauce était bonne d'ailleurs, mais j'en aurais aimé un peu plus, hein. Peut-être justement pour nourrir le. Puis comme c'est posé sur du riz, donc là du coup le riz boit un peu la sauce, et du coup avec une petite sauce à côté pour faire trempette avec son morceau de poulet, ça aurait peut-être été sympa.
Bon.
On aurait dû le demander.
Donc, bien vu la sauce, bien vu le poulet, mais c'était pas pour moi du saté ayam. Donc, encore une fois, c'était bon, mais ça ne correspondait pas à ce que j'attendais.
Donc, revisiter par rapport au saté ayam des marchés.
De la street food
des marchés indonésiens, Philippe. Donc, nous n'avons pas mangé de dessert, puisqu'on n'avait plus vraiment faim. Mais par contre, on a goûté le nasi goreng, alors qui là aussi est un plat, et que donc nous, on a partagé comme accompagnement. Le nasi goreng, c'est quoi, Philippe?
Alors, nasi,
c'est le riz.
Nasi, c'est riz. Et goreng, ça veut dire frit.
D'accord.
Alors, c'est du riz frit, cuit en deux fois, Manu, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, on le fait d'abord cuire une première fois.
Au rice cooker, enfin vapeur, voilà. Cuit vapeur.
Et après, on prend un wok et on fait le revenir. C'est vraiment l'institution, c'est la base. C'est la base du repas en Indonésie. C'est une culture. Alors, il y a autant de nasi goreng que de cuisinières. Donc, avec des fruits de mer, avec du poulet, avec plein de choses. C'est délicieux. On a mangé un nasi goreng.
Voilà, alors là c'était un nasi goreng ayam, donc au poulet.
Un petit peu épicé, voilà, pour moi ça aurait pu être plus relevé quand même.
Ouais, c'est parce que effectivement vous avez l'habitude du nasi goreng indonésien,
voilà,
qui généralement est très relevé, puisque vous dites après on le fait frire au wok,
on fait revenir.
Mais vous n'avez pas précisé avec une pâte d'épices, parce que je rappelle que la spice paste, la
base de la cuisine indonésienne,
voilà, spice paste, c'est quand même la base de la cuisine indonésienne, que la ménagère indonésienne, quand elle sort de chez elle le matin, elle va faire le marché pour acheter les ingrédients de sa pâte d'épices, et donc il y a une pâte d'épices qui est ajoutée dans le wok avec ce riz. D'ailleurs, on met d'abord la pâte d'épices. On met toujours d'abord la pâte d'épices avec une matière grasse pour torréfier un petit peu les épices. Et puis après, on ajoute donc le riz dedans. Et alors là, avec une sauce secrète Jawa. Donc, comme elle est secrète, on n'a pas eu les ingrédients. Mais effectivement, peut-être pas assez pimenté au goût des puristes, mais une assez bonne sauce quand même, Philippe.
C'était franchement bon.
Ça faisait le job.
C'est un un bon, ça fait le job. Le nasi goreng, copieux encore une fois, parce que nous on a eu on a pris juste une petite portion pour le goûter. Voilà, bon nasi goreng.
D'accord. Alors, autre version, il y a le mi goreng. Alors le mi goreng, c'est la même chose mais avec des nouilles de blé.
C'est les nouilles.
Ouais.
Pareil, institution, c'est voilà, on en mange tout, enfin les Indonésiens en mangent toute la journée.
Ouais, d'ailleurs le mi c'est une appellation commune à beaucoup de pays.
Voilà,
de,
parce qu'en Thaïlande on les retrouve.
En Thaïlande, au Vietnam Hong Kong, ouais. Et même dans certaines soupes en Chine, on parle de mi. Donc c'est une nouille de blé. Donc nasi goreng, bah, ça fait effectivement le job. Alors il y a des boissons également. Il y avait des boissons comme des espèces de smoothies. Alors pas de fruit du dragon, ça vous cherchiez du fruit du dragon quelque part.
Moi j'ai cherché dragon fruit.
Dragon fruit, voilà, oui.
Qui est juste une merveille, ou jus de mangue, qui sont des jus qu'on consomme beaucoup en Indonésie. Après il y a tout ce qui est pastèque. Voilà.
Alors là plus des cocktails d'inspiration.
Là,
indonésienne ou des smoothies.
Ouais, là, il y avait beaucoup de cocktails un peu chichi.
Ah bah on est dans le concept de la revisite.
Voilà, donc il y a des cocktails avec des noms de volcans, il y a des spritz avec des noms de plages ou d'endroits à Bali. Voilà.
Très bien.
Bon, j'ai rien pris. Je sais pas ce que vous avez pris, Manu.
J'avais pris un cocktail dont j'ai oublié le nom, mais qui était sympathique avec du pamplemousse, du citron vert, si je me souviens
bien. J'ai jamais vu ça en 20 ans d'Indonésie, j'ai jamais entendu parler.
Ou peut-être éventuellement au bar de l'Intercontinental.
Voilà,
c'est plutôt dans cet esprit-là. Très bien. Alors, on va parler ensuite du Grand Bleu avec Fabrice. On vous laisse quelques minutes pour une petite pause et on revient de suite dans les terrasses de Manu.
Les terrasses de Manu revient dans un instant. Les terrasses de Manu sur Beurre FM.
De retour dans les terrasses de Manu avec Philippe Robichon, nous parlions du restaurant Jawa, 179 quai de Valmy à Paris 10e. Donc le numéro de téléphone 09 81 87 64 19, 09 81 87 64 19. C'est fermé le samedi midi et le dimanche midi et le service est de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30. Et puis d'autres adresses hein, partout dans Paris pour Jawa, donc www.jawa avec un D-J-A-W-A. .fr. Donc pour une cuisine indonésienne qui n'est pas aussi authentique que dans les faubourgs de Sumatra et de Java, mais qui reste une bonne cuisine, hein, si vous voulez passer un moment agréable, ou si vous voulez prendre en mode street food, justement prendre un saté ayam à emporter pour aller le manger sur le bord du canal Saint-Martin pour 10 €, c'est quand même un bon plan, une bonne affaire. Vous retrouverez toutes les coordonnées sur la page du podcast sur le site beurrefm.net. Alors, dans un tout autre registre, Fabrice, donc le Grand Bleu sur le port de l'Arsenal. Donc on était presque à Saint-Malo hein, pendant quelques heures ensemble.
Sur ta proposition.
Absolument.
C'est vrai que moi je préfère être honnête, je suis pas excessivement produit de la mer. Alors quand Manu est venu me voir en me disant, bah tiens, si on allait au Grand Bleu, j'ai dit, je crois que Manu n'a pas très bien saisi effectivement le genre de restaurant que j'apprécie. Il
dit, non, c'est dans vos derniers, c'est quand on vous pousse dans vos derniers retranchements que vous êtes le meilleur.
Exactement.
Fabrice.
Et en fait, il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, j'ai regardé la carte, tu vas voir, c'est tout simplement sympa. On va aller se retrouver, c'est à deux pas de Bastille, et c'est vrai que bah, c'est un coin que je connaissais absolument pas. Alors c'est vrai que je suis pas très parisien à la base, mais en tout cas pour vous situer, alors c'est vrai que pour celles et ceux qui se font effectivement une certaine image de Paris, là vous, en gros vous êtes à deux pas, mais alors à deux pas et demi hein, vraiment de la place de la Bastille, l'Opéra Bastille.
Et on voit le génie dépasser quand on lève la
exactement.
Tête.
Exactement, hein. Et en fait vous vous garez, alors là en plus il y a quand même un peu de place dans le secteur, d'autant plus que là on est en plein mois d'août.
Oui,
donc,
surtout en plein mois d'août.
C'est assez facile de se garer ou d'y accéder en tout cas en transport en commun, parce que là vous avez tout de suite les arrêts de métro à côté, et là en fait vous descendez de la rue principale pour aller donc vers le quai. Et alors là, vu que toi tu es beaucoup plus parisien, d'autant plus que tu es vraisemblablement natif du secteur, le comment s'appelle le coin, c'est le port
de l'Arsenal.
Le port de l'Arsenal. Et là en fait on découvre véritablement en fait un autre Paris, parce que le fait de juste descendre cette contre-allée nous coupe de tout, nous coupe de la circulation, du bruit, et on se retrouve en fait avec un restaurant, et là pour le coup on peut pas dire le contraire, mais effectivement on est à 200% dans le thème de cette émission, puisqu'on se retrouve dans un restaurant qui a limite plus de terrasse que de surface
complètement,
à l'intérieur des murs. Et là, il faut imaginer véritablement qu'on se retrouve, tu parlais de Saint-Malo, on peut parler de Deauville, on peut parler, voilà, vous avez vraiment une énorme terrasse, un petit peu limite sur pilotis, voilà, ou en tout cas sur...
Et plusieurs espaces, hein. Il y a oui. un bar intérieur plutôt lounge, un bar extérieur sur le quai, où les gens viennent manger une petite planche de fromage en buvant un
Et c'est vrai que ce qui me faisait penser à
un petit
Deauville,
rooftop aussi, un petit rooftop.
Ouais, et il y avait même, effectivement, sur le devant, c'est-à-dire que même devant la terrasse, il y a même des petits transats.
Oui, absolument.
Blanc et bleu, et vous pouvez comme ça vous mettre bien avec un petit cocktail, un petit verre, peu importe, et donc apprécier le calme dans une zone totalement piétonne, et donc avec les bateaux qui sont amarrés à quai pour peut-être soit partir, soit des personnes qui habitent le secteur. En tout cas, c'est vraiment un cadre et un calme que l'on retrouve malheureusement très très peu sur Paris.
C'est vrai, et c'est un peu le but aussi justement des terrasses de Manu, c'est de vous donner ces petites adresses, des pépites comme ça, parisiennes, qu'on ne connaît pas forcément, et qui permettent de se restaurer dans un cadre très sympathique. Alors là, effectivement, le cadre est super sympathique puisqu'on est au-dessus donc du bassin de l'Arsenal, où il y a donc des gens qui habitent, comme vous le disiez Philippe tout à l'heure, il y a des péniches avec des gens qui vivent dessus. J'ai moi-même connu des gens qui habitaient là, et j'ai pu donc monter sur un bateau. C'est vrai que c'est très agréable de passer du temps sur une péniche. Mais alors là, on n'était pas sur la péniche, mais on était quand même pratiquement les pieds dans l'eau. Hein.
Oui, puis après, c'est vrai qu'on n'est pas non plus sur la Seine en elle-même. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un petit bras.
Oui, c'est calme. Il n'y a pas les bateaux mouches qui passent en permanence avec les gens qui font bonjour.
Voilà, exactement. Non, on est vraiment sur un petit havre de paix, et qui, pour le coup, vraiment porte bien son nom. Donc le Grand Bleu, qui est juste vraiment sur ce quai, qui vraiment propose une très très grande terrasse. Tu as parlé de pas loin de 60 personnes, 60 couverts, je crois.
60 couverts en extérieur.
En extérieur, sans compter en plus, après les petits bars qui est à côté, que vous pouvez prendre les pieds suspendus sur des tabourets hauts et tout. Non, vraiment un vrai coup de cœur pour le lieu, en tout cas.
Voilà, et puis bien orienté, parce que de là où nous étions, on a eu un magnifique coucher de soleil. Alors, pas sur la baie d'Along, mais sur la cime des immeubles du boulevard Bourdon, juste en face. Mais sympathique quand même, joli, avec une belle lumière. C'était assez sympa. Alors, comme vous le disiez, Fabrice, effectivement, qui dit Grand Bleu, qui dit on mange au bord de l'eau, une cuisine effectivement plutôt orientée sur le poisson, mais pas que, parce qu'il y a quand même pour ceux qui sont plutôt viandards comme vous, on va dire, il y a quand même du choix. Alors en entrée, vous aviez pris un pain perdu avec de la burrata et une salade d'herbe.
Alors une entrée assez surprenante, puisque le pain perdu, on a plus l'habitude de le prendre plutôt en dessert,
oui,
quand même, hein. Là, effectivement, qui a été décliné en version salée
oui,
en entrée. En tant que tel, je trouve que l'opération est plutôt réussie, hein. L'ensemble est quand même assez cohérent, même s'il faut quand même admettre que dans l'ensemble, quand on voit l'assiette arriver, on se dit qu'effectivement, ils l'ont un peu perdu, le pain, quand même, hein, parce
oui.
que il y a plus d'accompagnement que de pain, et ce qui est d'autant plus dommage que c'est finalement
C'est
surtout l'aliment pratiquement le moins cher qui était proposé dans l'assiette, donc c'est vrai qu'on aurait pu en prendre.
Oui, donc c'était pas par souci d'économie, peut-être par souci esthétique de présentation.
Mais c'est vrai que vu qu'il y avait plein d'accompagnements, plein de salades, de fromages, etc. avec, du coup, c'est vrai qu'on était un petit peu sur notre fin, on aurait bien voulu avoir un petit accompagnement de pain supplémentaire.
Oui, avec une belle boule de burrata. Alors la burrata, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une mozzarella, mais qui est une mozzarella crémeuse. Donc quand on la coupe, il y a la crème et le lait qui s'écoule de l'intérieur. C'est un peu comme les moelleux au chocolat, vous savez, avec le cœur fondant.
Mais sans chocolat, quoi.
Ouais. Mais sans le chocolat.
Tu vas suivre Philippe ou...
Non, je vois très bien. Je pensais au docteur de labo, là, s'il nous écoute, on coupera.
Ah oui, là, on est un peu...
On est mort.
Trop de lactose, tu le lactose.
Ah oui.
Et puis, une salade d'herbe qui était très agréable, d'ailleurs, oui. Fabrice.
Oui, qui allait bien avec, en fait.
Même une petite mesclin, une salade d'herbe. Et donc, ça, c'est une entrée qui était facturée 10 euros. De mon côté, j'avais pris... Alors, moi, j'étais parti sur le côté plus marin, puisque j'avais pris un ceviche de Saint-Jacques. Donc, le ceviche, hein, c'est quoi? C'est du poisson cru. Donc là, c'était de la Saint-Jacques crue. Alors, la Saint-Jacques, on n'est pas au top de la saison, hein, ça je le confirme. Mais j'avais envie de Saint-Jacques. Elles étaient bonnes. Donc un ceviche, c'est du poisson cru en général, mais qu'on cuit dans un ce qu'on appelle un leche de tigre normalement. en Amérique du Sud, qui est un mélange de jus de citron, d'épices, etc. Donc là, il était avec de ce ceviche de Saint-Jacques, il était accompagné de concombres, de carottes, de grenades, d'oignons, de papaye, de vinaigre de riz et de yuzu, donc le ceviche un peu revisité. C'était très bon. Bon, alors il existe en deux versions, en version entrée à 12 euros ou en version plat, si vous voulez un plat, à 24 euros, ce qui est le cas aussi d'autres tartares ou ceviches, comme le tartare de saumon ou le tartare de bœuf, que vous pouvez avoir soit en petite portion en entrée, soit en grande portion pour faire un plat. Alors vous, de votre côté, on parlait de viandard, donc vous n'avez pas fait semblant, vous vous êtes envoyé une côte de bœuf.
Oui, alors parce que en fait j'ai un gros souci vraiment lorsque je suis dans un restaurant, c'est que, alors ça je pense qu'à mon avis je suis peut-être pas le seul dans ce cas-là, c'est qu'en fait j'ai vraiment peur de prendre des risques.
Moi je suis d'accord.
Et alors, et c'est vrai que c'est un gros problème, parce que, alors là, on va arriver vraiment dans le nœud, vraiment, de cette soirée qu'on a partagée ensemble. C'est que, en fait, véritablement, je me serais bien laissé tenter par d'autres plats. Et là, je me retrouve effectivement avec en face de moi, Manu, qui a pris un plat qui, je ne te le cache pas, me faisait encore beaucoup plus envie que celui que j'avais pris. Parce que j'ai joué la sécurité, mais qu'en face, effectivement, c'était pas dégueu dans le langage un petit peu technique.
C'est ça. Vous avez regretté de pas vous lâcher un peu plus.
C'est exactement
ouais,
ça.
Mais quand on est au restaurant, c'est vrai que la côte de bœuf, ça reste aussi un peu un fantasme. Et que c'est tellement quelque chose qu'on mange pas tous les jours.
C'est vrai.
Que c'est souvent l'occasion, le restaurant, de manger une bonne côte
Alors,
de bœuf.
Alors, deux choses, effectivement, au niveau de la côte de bœuf, c'est pas le plat qu'on mange tous les jours. C'est un plat qui est quand même relativement cher.
C'est super cher.
Et qui, en plus,
enfin là, la côte de bœuf individuelle à 28 euros, c'est quand même moins cher que dans beaucoup d'autres endroits.
Hein. Je parlais vraiment au quotidien quand on veut le faire chez nous. On n'a pas forcément le savoir-faire pour bien la cuire.
Non, c'est gâché.
Et surtout, on n'a pas forcément les bonnes adresses pour s'approvisionner. Et ça, c'est vrai que c'est assez problématique. Et on a tendance plus, on va dire, à se lâcher sur un restaurant parce qu'on se dit, le mec, c'est son boulot. Il sait ce qu'il fait. Il a ses sources d'approvisionnement correctes. Donc, du coup, bah, c'est vrai qu'on a plus tendance à se dire, bon, bah, s'il y a une bonne côte de bœuf à manger, elle serait plus au restaurant. Et là, pour le coup, c'était le cas. Hein. Véritablement, une très belle pièce. Alors, je connais pas vraiment le poids, la taille, mais elle était quand même plus que correcte, hein, quand même.
Oui, je pense qu'elle devait faire un bon 300 grammes, voire plus.
Ouais. Ouais. Non, elle était vraiment très,
alors,
très correcte.
Avec ou sans os, parce que le
avec l'os, bah, avec côte de bœuf avec l'os. Quand il y a plus d'os, c'est une entrecôte, Philippe. Hein.
Ah bah tiens, là on se couchera beaucoup moins bête ce soir.
Ah bah la côte de bœuf et l'entrecôte, c'est le même morceau, sauf qu'il y en a un qui est désossé et l'autre qui ne l'est pas, tout simplement.
Eh ben en tout cas, nous elle ne l'était pas et c'est vrai que non, très très bon morceau. Mais alors, vous voyez encore un tout petit détail bête, mais alors qui vient quand même gâcher le plaisir du repas, servi avec un couteau. Mais
ah
alors,
oui, un couteau à viande un peu émoussé.
Un couteau à beurre. Et alors là, c'est vrai que la viande a beau être effectivement la plus tendre du monde, bah c'est vrai que si on n'a pas un vrai vrai bon couteau, bah encore une fois, on a l'impression de manger avec des outils qui sont absolument pas adaptés et du coup, bah on a l'impression que le manque de tranchant de couteau rend la viande, on donne l'impression en tout cas que la viande est beaucoup plus ferme, beaucoup plus
oui, alors qu'effectivement, elle était super tendre.
Elle était parfaite, elle était absolument parfaite.
Bien cuite, saignante, comme vous l'aviez demandé.
Ah, vraiment, rien à redire sur la viande. Très très bon fournisseur, très bonne cuisson, accompagnement de frites maison.
Ouais, qui était très bonne d'ailleurs.
Exactement.
Hein, je vous en ai piqué quelques-unes.
Plus que quelques-unes d'ailleurs.
Oh, bah merci.
J'ai pas revu le petit plat de frites à la fin du
petit. Oui, le petit panier de friteuse.
Manu est professionnel jusqu'au bout des frites.
Ah ben absolument, moi je goûte
jamais.
Tout.
Il vit vraiment goûter.
Je goûte tout et une mayonnaise au curry rouge.
Oui, mais en plus, alors ce qui est drôle pour finir sur les frites, c'est que en fait, donc effectivement, il goûte peut-être 2-3 frites comme ça, donc aucun problème. On se pique un petit peu dans les plats pour goûter, quoi. Mais et après, il fait va chercher celle du fond parce que paraît-il qu'elles sont pas, elles ont pas forcément le même goût parce qu'elles ont gardé un petit peu plus de chaleur que les autres, un petit peu plus d'humidité. Et donc du coup, hop, on recommence et on repique encore un petit peu plus de frites du fond.
Est-ce que j'avais raison? C'est ça la question.
Oui. Et ben oui,
ah
ça
bah voilà.
Ah oui, voilà. Oui, bien sûr. Non, très très bonne. En plus, vraie frite maison. Enfin, en tout cas, le plat absolument rien à redire. Juste, je te dis, un petit peu entaché par ce côté
couteau
qui finalement entache un petit peu l'expérience quand même que l'on a. Et Accompagné par une mayonnaise au curry rouge, comme tu disais, qui était absolument parfaite. Ça vient changer un petit peu de ce que l'on a l'habitude. C'est pas du ketchup,
c'est
pas,
oui,
pas
ça de la mayonnaise. Ça change la côte de bœuf béarnaise, ouais.
Ouais, voilà,
ça,
c'est,
ouais. C'est la sauce cocktail revisitée là.
C'est un oui, peu ça, c'est, ouais. C'est, bah oui, oui, non, mais c'était. Puis elle était bien faite. Elle, là, pour le coup, on sentait bien le curry rouge. C'était assez relevé. Comme la viande était bonne, c'est vrai que j'aurais tendance à peut-être plus l'accompagner avec les frites, tu vois, parce que une côte de bœuf quand elle est très bonne,
y a
moi,
pas
je
pas
dis qu'elle se suffit à elle-même.
Juste du gros sel.
Et donc la mayonnaise au curry rouge avec les frites maison, avec la peau, qui était très très bonne.
Ouais.
Moi je dis accord parfait, rien à dire. Alors de mon côté, donc la côte de bœuf elle est à 28 €, ce qui pour une côte de bœuf de bonne qualité et d'un bon calibre.
En plein cœur de Paris.
En plein cœur de Paris, face à la mer presque, face au bassin de l'Arsenal et face aux péniches avec les petites mouettes qui se baladent, c'est quand même très sympa, c'est un super spot avec donc une très bonne viande. Et puis alors, ce que vous n'avez pas osé prendre, mais qui vous est quand même un peu de l'œil, mais vous y avez goûté, le riz noir en risotto avec des légumes et des morilles. Alors encore un truc pas de saison. Vous voyez à quel point je suis vicieux. Moi, quand je vais quelque part, je prends les trucs qui sont pas de saison pour voir si à l'arrivée c'est quand même plutôt bon.
Ceci dit, les morilles, ça se sèche très bien. Hein.
Ça se sèche très bien,
et
effectivement.
Ça se réhydrate très bien, donc.
Ça se réhydrate très très bien aussi. Et puis là, en fait, elles étaient mixées, parce que l'intitulé dit légumes et morilles, mais en fait là, elles étaient mixées dans une petite sauce. Donc c'est un riz noir, donc cuisiné comme donc un riz noir. Vous savez, pas le riz noir avec l'encre de sèche. Hein. Il y avait pas d'encre de sèche. C'est le riz qui lui-même qui est noir, hein, comme un riz vénéré ou le riz.
On en a parlé avec Fabrice, mais la mode du riz noir, des pâtes noires et tout ça, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Des pains noirs.
Ah oui, mais ça, c'est le charbon. C'est la mode du charbon végétal. On en met partout, Philippe. Ouais. Alors, avec des légumes, des morilles, c'était très bon. Le riz était bien cuit. La petite sauce aux morilles était sympa. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ah oui, donc, franchement, super bon. Vraiment super bon. Et puis, c'est typiquement le genre de plat qui colle un petit peu au corps, quoi.
Mais le risotto, vous êtes sûr que le 15 août, Manu, c'est sérieux?
Bah écoutez, moi je travaille, hein.
Oui. Parce que c'est pas un plat, moi. Vous voyez, c'est pas un plat que j'associe à l'été, le risotto.
Et pourtant, une bonne paella en été, par exemple, une paella, c'est un genre de risotto, hein, Philippe. Donc, ouais, non, mais il y a pas de raison. Hein. C'est sûr que bon, on va peut-être pas manger un pot-au-feu en été, quoique ça m'est déjà arrivé, vous voyez. Donc, comme quoi. Hein. Et alors, en dessert, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous aviez pris
Moi, je m'étais arrêté pareil, malheureusement. Mais alors, ça, c'est vraiment mon gros problème. Hein. Toujours sur du très simple, mi-cuit au chocolat. Mais par contre, il y avait quand même un mi-cuit qui était vraiment absolument parfait. Hein. Tout ce qu'il fallait, absolument crémeux à l'intérieur.
Ouais, très très moelleux. Ouais.
Très moelleux. Sympa. Et surtout, il était accompagné en fait d'une chantilly un peu particulière, parce que c'était une chantilly à la pistache.
Ah oui, ça, excellent, excellent.
Et alors, franchement, le mélange des deux était juste vraiment exceptionnel, et surtout, vraiment, la chantilly avait un vrai bon goût de pistache.
Oui, de pistache naturelle, ça faisait pas pistache industrielle, puis non. Déjà, elle n'était pas verte fluo, comme quand on met de la pistache industrielle avec du colorant.
Donc, non, vraiment, une très belle réussite, et moi, pour le coup, j'en garde un très très bon souvenir de ce repas.
Voilà, et puis moi, après tout ça, évidemment, j'ai pris un smoothie des Tox. Alors que j'aurais plus vu en apéritif d'ailleurs.
C'est votre côté.
C'est mon côté raisonnable.
Ouais, c'est ça.
C'est parce qu'il y avait des fruits, du concombre, du yuzu, de la chantilly. Vous voyez.
Alors, c'est vrai que justement, c'est ce qu'on a un petit peu regretté, c'est que encore il y a une carte des cocktails qui est quand même assez intéressante, qui est assez variée. Et par contre, à côté, il y a quand même absolument aucun cocktail sans alcool. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on est en été, on a envie peut-être de se rafraîchir. Tout le monde n'a pas envie de
le Virgin cocktail. Ouais. C'est important.
Voilà. Et le conseil qu'on pourrait donner d'ailleurs, c'est si vous voulez un cocktail sans alcool, commandez ce dessert, le smoothie détox, qui fait office.
Parce que justement, c'est
un parfait cocktail sans alcool.
C'est un petit peu ce que j'ai regardé. C'est que quand je leur ai demandé si vous aviez des cocktails de fruits de saison sans alcool et tout ça, on me l'a pas proposé ce smoothie. Quand on est arrivé à la carte des desserts, quand on voit ça arriver, on dit c'est dommage. On me l'aurait proposé, je l'aurais probablement pris en apéritif.
Voilà. Donc le Grand Bleu où Fabrice a pris l'apéritif au moment du dessert.
J'ai pris l'apéritif et pas la tasse. Et ça, c'est un peu
raison. Et on n'a pas bu la tasse effectivement, puisqu'on a passé un très bon moment et nous avons eu un dîner très sympa. Alors précisons aussi, alors c'était pas le cas le soir de notre visite, hein, mais il y a le soir des DJ, des animations, etc. Bon, l'endroit il est tenu par Philippe Alves. Alors pour ceux qui connaissent très bien la nuit parisienne, Philippe Alves, c'est celui qui est à l'origine de l'atelier des artistes près de République, de la Démesure, rue du Faubourg Montmartre, de la Démesure sur Seine. Seine, un autre endroit sur les quais, donc un professionnel de l'entertainment parisien, on va dire, que les noctambules parisiens connaissent bien. Et donc l'adresse, c'est au port de l'Arsenal, donc on y accède au niveau du 67 boulevard de la Bastille à Paris 12e. Le numéro de téléphone 01 43 45 19 99, 01 43 45 19 99. C'est ouvert tous les jours de 12h15 à 23h30 et même plus tard si vous voulez juste boire un verre. Et le site internet legrandbleu-paris.com, legrandbleu-paris.com. On vous rappellera donc les adresses de Jawa et du Grand Bleu sur la page du podcast de l'émission. On arrive au bout des terrasses de Manu. Merci.
Si j'avais juste un petit mot de conclusion pour résumer tout simplement le Grand Bleu, c'est pas forcément le restaurant qui va vous surprendre, qui va vous émerveiller d'un point de vue culinaire, mais en tout cas, si vous voulez vraiment pour résumer une valeur sûre, vous voulez pas vous tromper, vous voulez des plats un petit peu traditionnels,
oui, classiques,
mais par contre,
mais bien fait et dans un bel endroit,
bien fait et dans un cadre plus que beau, vraiment exceptionnel de Paris avec une très belle terrasse pour peu que vous ayez un beau rayon de soleil, eh bien là, je peux vous dire que vraiment c'est une des adresses à se partager rapidement. Donc le Grand Bleu, je vous dis, c'est à deux pas de la place de la Bastille.
Parfait, merci Fabrice, merci à tous d'avoir suivi les terrasses de Manu, merci Philippe.
Merci à Manu de nous faire profiter de vos bonnes adresses en tout cas.
Voilà. Alors on va échanger nos places parce que les auditeurs vous retrouvent dans quelques secondes pour les petites annonces. Le téléphone commence déjà à chauffer et Yanis est débordé, il est saturé d'appels. Donc dans un instant, les terrasses de Manu. Mais non, mais moi c'est terminé.
Non, c'est les petites annonces en terrasse.
Les petites annonces de Philippe, on fait les petites annonces en terrasse aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition des Terrasses de Manu.
Les Terrasses de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM.